Bon, on vient de faire le point sur le variant indien, également sur la vaccination qui se passe quand même relativement bien, là, c'est-à-dire que les gens de 45 ans et plus se sont présentés nombreux et probablement qu'on va atteindre aujourd'hui, demain, un sommet dans la vaccination au Québec. Premier point. Deuxième point, aujourd'hui, le ministre Christian Dubé, le Dr Arruda, vont annoncer des modalités, parce que beaucoup le demandent, là, pour ce qui est de la vaccination de personnes handicapées, physiques, intellectuelles, qui ne sont pas dans les hôpitaux. Au début, la liste était hyper serrée. Tu sais, t'avais, par exemple, quelqu'un handicapé, handicap lourd avec des complications potentielles là, pour les cas de COVID, mais tu n'étais pas traité à l'hôpital, donc tu n'étais pas sur la liste. Alors aujourd'hui, ça va changer et on aura les détails au cours de l'après-midi. Mais entre-temps, on sait que la pression demeure sur le réseau de la santé. Vous regardez les cas, vous dites « bon, ben c'est pas si mal ». Et parfois, les figures statistiques peuvent être trompeuses. J'en parle avec Dr Amélie Boisclair, qui est interniste et intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. On lui a parlé la semaine dernière. Elle continue sur les réseaux sociaux de nous tenir informés. Dr Boisclair, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Si vous aviez ce matin à prendre quelques moments là, pour me décrire là, comment ça va dans votre hôpital, aux soins intensifs, est-ce qu'il y a des transferts de patients, comment ça se gère actuellement?
Comment ça se gère depuis un moment, là? C'est que, depuis quoi? Depuis janvier, on déborde déjà sur l'unité coronarienne. On n'a jamais ce qui devait être un débordement temporaire, n'a jamais été... c'est devenu permanent depuis janvier, là, si on veut. Puis là, dernièrement, ce qui se passe, c'est que on n'est même plus capable de monter les patients qu'on admet de l'urgence vers nos soins intensifs parce qu'on n'a pas de lit. On transfère régulièrement des patients. Ce que je vois là présentement, puis quand je parle avec mes collègues, soit de la Couronne-Nord là, ou à Montréal, c'est de plus en plus difficile de réussir à trouver un lit de soins intensifs libre pour accueillir ces patients-là parce que tout le monde est dans la même situation.
Mais quand vous dites, par exemple, on transfère, donnez-moi peut-être un exemple, on prend un patient chez vous puis on l'envoie où? On prend un patient dans Lanaudière ou Laval puis on l'envoie où?
Bien, en fait, avant, moi, dans mon milieu, par exemple, normalement, je vais transférer un patient si j'ai besoin d'une expertise à laquelle je n'ai pas accès. Tu sais, ça, c'est normal. J'ai besoin d'une neurochirurgie, je n'ai pas de neurochirurgien chez moi. Bien, on s'installe puis on part avec les patients. Ça, c'est tout à fait normal. Là, ce qui se passe, c'est que c'est des patients dont, normalement, j'ai la capacité d'offrir les soins chez moi. Mais là, si on se ramasse, par exemple, avec un intox intubé à l'urgence, qui va pas bien, là, qui a besoin d'être de notre expertise, bien là, si je ne suis pas capable de l'amener en haut, je ne peux pas le laisser en salle de réanimation. Là. Ben, en fait, c'est pas optimal, parce que cette salle-là, à l'urgence, a besoin de rouler pour accueillir d'autres patients instables. Fait que là, il faut trouver un hôpital qui est capable d'accueillir ce patient-là pour en prendre soin. Si c'est un COVID, bien là, c'est un autre défi. Parce que là, si on n'a pas de place temporairement COVID, bien là, il faut trouver un hôpital qui est capable d'accepter des patients COVID. Fait que c'est tout ça qui se joue en même temps.
Et on sait que quand vous avez un patient COVID, c'est un transfert et c'est un lit qui va être occupé pour un bout de temps, là.
Exactement. Fait qu'en fait, je donne le problème de gestion de lit à quelqu'un d'autre à ce moment-là. C'est parce que moi, dans le fond, je sais que dès que j'admets un patient COVID, puis on le fait à chaque fois qu'on a de la place, ce lit-là vient d'être bloqué pour plusieurs jours, voire des semaines. Donc, si je ne suis pas capable de l'accueillir, bien, je transfère cette charge-là à un autre hôpital qui va accueillir mon patient pour y offrir les soins, mais c'est à ce moment-là, c'est dans un autre milieu que la situation se répète.
Mais tantôt, je parlais des statistiques, puis je sais que vous l'avez abordé là, dans l'enfilade de messages que vous avez envoyé. C'est que d'un côté, on regarde les cas, puis on se dit, bon, ben, ça va quand même pas si mal. On compare avec l'Ontario, puis on dit, ben, on est mieux, c'est plus sous contrôle ici. En même temps, il y a une augmentation des hospitalisations, puis il y a les autres cas qui s'ajoutent. À Toronto, les hôpitaux, là, c'est pas un peu, là, sont surpeuplés. C'est des dizaines de patients là, qui doivent être transférés. Mais ce que vous nous dites, c'est que derrière les stats, là, il y a quand même une situation de pression sur le réseau.
Bien, en fait, c'est parce que les stats, c'est pas qu'elles sont fausses. C'est que c'est incomplet pour jeter un regard sur le réseau. Quand on affiche des cas aux soins intensifs, ce qui est décrit, c'est les cas qui sont considérés actifs. Moi, il y a quelqu'un qui me répondait hier en disant « vous ne devriez pas être fatigué, ça dit que vous avez 7 patients. » Je dis « voyons. » Mais tu sais, j'ai 7 patients à ce moment-là, je crois, qui étaient considérés comme COVID actifs. J'en avais environ 4 autres que ça faisait plus que 21 jours, mais tu sais, qui sont encore COVID, là. C'est ce qui les a rentrés à l'hôpital, ils sont toujours intubés. Et j'avais environ 11-12 cas très malades, très instables, qui est ce que les patients verts, pour une capacité normalement de 17 lits. C'est que ce n'est pas, c'est pas que les stats sont fausses, c'est qu'elles sont incomplètes.
Ben, là, ça donne une partie de la réalité, dans le fond.
Exactement. Puis là, tout le monde analyse les stats un peu à sa façon, puis c'est pas un blâme. C'est juste qu'on peut pas se dire que ça va bien. Puis souvent, quand je parle à mes amis, je leur dis, si tu me connaissais pas, là, ce serait quoi ta perception de ce qui se passe? Puis eux, en toute honnêteté, ils disent, ben, j'aurais l'impression que ça va, tu sais. Puis ça, mais mon Dieu, ça n'a plus de bon sens, là. L'Ontario, c'est pas un objectif à atteindre.
Ça, c'est sûr. Docteur Boisclair, merci beaucoup. Je vous laisse retourner à votre travail.
Je vous remercie.
Merci. Au revoir. Docteur Amélie Boisclair, interniste intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur.